Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Figaro Radio. Le Buzz TV. Sarah Lecoeuvre et Mathilde Seffer.
Figaro Radio.
Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau Buzz TV. Je suis avec Mathilde Seffer aujourd'hui. Bonjour Mathilde.
Bonjour Sarah.
Notre invité du jour est un journaliste que vous avez certainement découvert dans la bande de Quotidien. Il vole aujourd'hui de ses propres ailes en devenant éditorialiste sur la chaîne publique Sénat. Bonjour Azine Ahmed Chaouch.
Bonjour.
Bienvenue au Buzz TV. Donc depuis le 13 février, vous avez rejoint l'émission Sens Public, qui est présentée par Thomas Hugues à 18h sur Public Sénat. C'est le canal 13 de la TNT. Alors, pour commencer, comment s'est joué ce transfert en coulisses qui nous a quelque part surpris, parce qu'on est en plein milieu de saison là.
J'étais le premier surpris, en fait, pour être franc. Alors, comme vous l'aviez bien dit en intro, moi, j'ai fait 7 ans à Quotidien, depuis la première année. Donc, je suis là au début. J'étais un peu le dernier de la bande de reporters.
Historique.
Et voilà. Et depuis un moment, je voulais faire un peu d'autres choses. Et c'est vrai que je commençais un peu à m'intéresser aux documentaires, à des choses un peu plus longues. Mm-hmm. Je voulais aussi créer d'autres formats et un peu me dégager de l'actualité, pour être franc. Mais là, en fait, quand on m'a proposé ça, à Public Sénat, on est venu vers moi, on m'a dit, est-ce que tu veux être éditorialiste politique ? Éditorialiste politique, c'est marrant, on ne me voit pas peut-être immédiatement à ce poste-là, parce qu'on imagine peut-être un monsieur avec des cheveux blancs et une pipe, j'exagère, mais c'est pas tout à fait faux. Et en fait, parce qu'il y avait ce défi à relever, et que c'est vrai que ça fait 7 ans que je ne parle que de politique dans mes sujets quotidiens, je me suis dit, voilà, une autre manière d'en parler. Et puis, j'avoue que Public Sénat, ça m'intéresse parce que j'aime cette chaîne. Je la trouve, dans l'atmosphère actuelle, très clash, très dur, très hard news, très BFM contre CNews. C'est vrai qu'il y a Quotidien, j'ai adoré faire, mais voilà, je voulais passer à autre chose. Et puis donc là, quand on m'a proposé d'apparaître et d'éclairer les téléspectateurs et le public dans cette émission, avec Thomas Hugues, qui je trouve un super journaliste, franchement, je dis, allez, vas-y, on tente, puis on verra. Donc maintenant, je mets des vestes, voilà. Je suis obligé de les nettoyer quand elles ont des tasses. Hein.
Alors, vous y serez combien de fois par semaine ?
Une fois par semaine, okay. Le mardi. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est déjà pas mal parce que les sujets. Parce qu'il y a deux éditos, il y a deux parties.
Oui.
Donc c'est à chaque fois, on va dire, thème unique. Quoi. Et dans chaque partie, je dois trouver je propose un édito, donc avec un angle. Et pour ma première, par exemple, c'était sur l'OTAN et l'Europe de la défense.
Ouais.
Pas mal. Et sur les urgences hospitalières, sur la deuxième partie, donc ça se prépare.
Ça demande quand même
exactement
du travail. Et Quotidien, c'est définitivement terminé.
Oui, Quotidien, c'est fini,
C'est fini.
Oui, 7 ans.
Septaine, vous avez fait
exactement.
Quotidien, c'est pas mal.
Et comme on arrivait la première année, j'ai fait deux élections.
Ah oui.
J'ai fait deux. On arrivait la première année.
C'est vrai. C'est vrai.
Exactement, Non, c'est vrai, je réfléchis avec vous, c'est vrai que j'ai fait deux élections, et ça, on est arrivé pour la victoire de Macron,
et puis la réélection.
La réélection, et après j'ai un peu continué, voilà, donc c'est pas mal quand même.
C'est pas mal,
sinon,
non
voilà,
joli parcours.
Parce que le cumul des mandats, ça va même pour les journalistes. Hein.
Vous avez raison. On continue la conversation avec Azine Ahmed Chaouch, juste après les news médias de Mathilde Seffer. Mathilde, on commence les infos médias avec les débuts de Maya Loquet aux 20h de France 2, c'était ce week-end.
Oui, c'était ce week-end, et on peut dire que c'est un baptême du feu réussi. Maya Loquet a repris les commandes dès vendredi soir du journal télévisé de la 2. Elle a ainsi remplacé Laurent Delahousse tout le week-end. Le présentateur était en congé. Il l'a d'ailleurs félicité sur les réseaux sociaux dès sa première, comme tout un tas d'internautes. On a pu lire quelle bonne surprise, bravo, vous êtes professionnel, ou encore Maya Loquet devrait être mise plus en avant. Cette dame est rayonnante. Habituée à présenter Télématin le week-end avec Damien Thévenot, Maya Loquet devient officiellement le joker de Laurent Delahousse.
Ouais. Vous pourriez présenter le JT, Asdine, non ?
J'ai jamais été... j'ai jamais eu ce fantasme d'être... Il y a beaucoup, notamment dans les écoles de journalisme, ils rêvent d'être présentateurs de JT. Mmh. Moi, quand j'ai fait mon école, on rêvait tous d'être plus jeunes. Moi, pas trop. Déjà, j'ai commencé par la presse écrite. J'étais au Parisien, je me suis un peu retrouvé là, par accident, parce que je faisais des sujets qui ont intéressé à mon M6, puis Quotidien, puis le supplément sur Canal, puis Quotidien, et je me suis retrouvé comme ça à faire un peu télé, mais la présentation un peu pardon pour elle, parce que j'ai vu, elle a très bien présenté, mais un peu genre, homme, femme, tronc, comme ça, moi c'est un peu moins mon truc. Je dis ça, prochain buzz, si vous me dites, oh là, vous êtes au JT. mais non, bon, je ne pense pas.
Mathilde, on poursuit ses infos médias avec la discrète référence à Blanche Gardin dans la dernière saison de LOL qui ressort.
Oui, alors le programme d'Amazon Prime a dévoilé sa première partie vendredi dernier et c'est dans le troisième épisode de cette quatrième saison qu'une furtive référence est faite à Blanche Gardin. Il fallait avoir l'œil, mais sur une affiche cachée derrière un photomaton, on a pu apercevoir le visage de la comédienne.
Moi, je ne l'avais pas vue, j'avoue.
Elle était entourée de sept nains. Oui, il fallait être vraiment...
Ouais, il fallait avoir l'œil. Hein.
Et alors, le hasard semble peu probable si on tient compte de l'historique, hein, parce qu'en effet, en avril dernier, Blanche Gardin avait farouchement décliné l'invitation de la plateforme à participer à LOL qui ressort. Elle avait jugé affolant d'être payée 200 000 euros. Donc, s'en était suivie une flopée d'avis la soutenant ou dénonçant ses propos.
Ça avait fait polémique. Ouais. Vous regardez la télévision, vous avez regardé
Je l'ai vu. Et en fait, je ne vais pas spoiler, mais il y a une vanne aussi sur Blanche Gardin.
Oui. Même c'est avant,
c'est McFly ou Carlito, l'un des deux.
Exactement, parce qu'on les confond.
Plus lequel. Moi, je les confonds en plus. mais...
Et bah, ouais, je crois que c'est Carlito, exactement. Et il y a une vanne qui est assez marrante. Je fais waouh, ils y vont.
Ils ont
un peu désamorcé. Et d'ailleurs, je fais la petite parenthèse, comme je suis en plein dedans là. Enfin, je suis arrivé au bout du. Parce qu'ils n'ont pas tout mis.
Non, les trois derniers.
Ouais, d'accord, j'ai l'impression qu'il y avait un problème sur ma box. Non.
Je trouve
que c'est la plus marrante, notamment Jérôme Commandeur, il est fantastique.
Ouais, oui, je trouve qu'il domine le jeu. On est d'accord. On termine avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 3,9, Mathilde.
Oui, et c'est le nombre en millions de téléspectateurs à avoir suivi le retour de Danse avec les stars ce vendredi. Après plus d'un an et demi d'absence, le programme de TF1 peut être satisfait de cette audience, étant donné qu'elle dépasse de presque 1 million le score de lancement de la saison précédente. L'émission est revenue en fait à ses fondamentaux avec le retour des pancartes de notes, aucune élimination lors des deux premiers primes pour laisser une chance à tous les participants. Il y a également Fauvoto et Jean-Marc Généreux qui ont fait leur comeback comme des danseurs emblématiques à l'instar de Maxime de Rémez ou encore Yann Alric Montreuil.
Azine, vous pourriez participer à un jeu comme Danse avec les stars ?
Non. À la limite, le jeu sur M6, vous savez, l'espèce de loup-garou là, d'Éric Antoine. Oui. J'ai même envoyé un message sur Instagram, donc, franchement, je trouve ça... Non, parce que c'est un jeu qu'on connaît tous, le jeu du loup-garou. Ouais. Ça m'a fait marrer, mais sinon, non. Fort Boyard. J'ai peur de tout, donc non. j'ai le vertige, j'ai peur des animaux. Non. En plus, ça met dans une autre catégorie, je trouve. C'est pas trop pour moi.
C'est bon, ouais. Razdine, vous êtes l'un des nouveaux visages éditorialistes de Public Sénat dans Sens Public, l'émission de Thomas Hugues à 18h. Alors, le boulot d'un éditorialiste, c'est souvent de donner son avis. Est-ce que vous avez un avis sur tout, Razdine ?
Non, c'est une bonne question. J'ai souvent plutôt été dans le camp de ceux qui critiquaient ce qu'on appelle les toutologues, ceux qui savent qui ont un avis sur tout.
Ouais.
Donc, non, je n'ai pas un avis sur tout, mais je peux traiter l'actualité avec un angle politique, ou avec, on va dire, mes spécialités, mes expertises, je ne suis pas expert, mais en tout cas...
Ouais, c'est quoi vos sujets de prédilection ?
Oui, la fait divers, police-justice, aussi la politique, comme j'en ai mangé,
Le sport aussi.
Oui, sport, bien sûr, et puis non, mais société aussi en général, c'est vrai. Puis bon, sur l'international, j'ai toujours, évidemment, en tant que journaliste, je lis beaucoup, et puis sur les sujets où je serai un peu, peut-être moins armé, je vais lire comme tout le monde.
Ouais, vous allez travailler.
Ben oui, il faut travailler, oui. Mais l'éditorialiste, il n'est pas obligé de dire... tout noir ou tout blanc, il doit, je pense, apporter un éclairage de manière peut-être plus appuyée, plus sincère. Voilà. Ne pas être dans ce langage un peu, je dirais, pas feutré, mais très objectif du sujet JT, où c'est très linéaire, je dirais.
C'est nuancé, là.
Ou nuancé, mais en tout cas, on va dire, voilà, je vais vous apporter, je vais vous montrer une perspective dans cette information, et je vais le dire de manière forte, mais un peu comme dans le quotidien, on le faisait dans les sujets. Je ne dis pas qu'on s'engageait, mais... On montrait du doigt de manière appuyée, pas tiède, parce qu'on on s'emparait de l'information et on la mettait en avant de manière un peu plus peut-être, j'aime pas le mot orienté, mais de manière plus ferme peut-être.
Ouais. Et alors comment s'est passée votre première ? C'était le 13 février dernier, vous aviez fait une chronique sur l'Europe et sur l'état de l'hôpital en France. Comment ça s'était passé ça?
Ah bah alors, c'est assez simple, on m'appelle le matin, après la conf, parce que c'est des sujets assez chauds. Oui. Et voilà, on doit plancher, c'est comme une colle en prépa ou...
Comme un sujet du bac.
Ouais,
pour passer le bac.
Exactement, donc alors, c'est cool. Bon, après, on a un débat, on peut proposer un angle, là, voilà, on discute. Et puis voilà, on part, on planche.
Alors, vous étiez stressé avant...
Comment vous êtes senti?
Ouais. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'au début, non, parce que je voyais ça comme... un vrai travail journalistique comme j'ai pu en faire sans stress. Puis ce jour-là, je sais pas, c'est un peu mais un peu emballé, il y a eu une dépêche AFP, machin, l'ancien de quotidien arrive.
Oui. Et là,
je commence à avoir des coups de fil et tout. C'est juste ce petit aspect-là qui m'a un peu remis un peu de pression, mais puis la pression du direct, ici le maquillage, on met les micros, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ça, mais voilà, après quand on passe ça, Thomas il met tellement à l'aise, il lance bien, il fait des bons lancements, il met beaucoup d'humeur, donc ça direct on se sent à l'aise,
et la machine est lancée. Oui. Alors dans le genre d'éditorialiste, vous êtes plutôt Jean-Michel Apathy, Patrick Cohen ou Eugénie Bastier? D'autres termes, est-ce que vous avez une couleur politique, Asdine?
Alors, je n'ai pas de couleur. Même si j'en avais, je ne le dirais pas de cette manière-là. Après, j'ai des sortes d'engagements, je dirais, contre notamment les discriminations, ça là-dessus, qu'elles soient.
On va en reparler d'ailleurs, parce que vous avez fait un documentaire là-dessus.
Tout à fait. Donc, je dirais plutôt les deux premiers, on va dire.
Plutôt Jean-Michel Apathy et Patrick Cohen.
Voilà. Okay. C'est vrai qu'après, Jean-Michel Apathy, il est sur Quotidien. Ouais. Et je ne dis pas que c'est la même famille et tout, mais bon, j'aime beaucoup quand même. Ça fait des années que je suis ce qu'il fait. Il est virulent,
il est punchy,
il écrit très bien. Et puis, j'adore même la manière dont il s'exprime. Voilà, c'est frais, c'est son accent, ça fait du bien.
Et c'est cash.
C'est cash, aussi. Exactement, c'est très cash.
Et alors, vous ne trouvez pas qu'il y a un petit peu trop d'éditorialistes, sur les chaînes d'info?
Sur les chaînes d'info.
On en parlait, qui ont un avis sur tout. Ouais. On parle aussi bien du Covid que de la guerre en Ukraine.
Mais peut-être quand on voit le même visage à longueur de journée parler de sujets différents, on peut s'interroger. Voilà. Après, des personnes qui ont, par leur carrière, un vrai bagage. Il y a par exemple Mathieu Croissando qui est sur Public Sénat. Moi, quand je l'écoute, je le trouve hyper solide. Je ne dis pas ça parce qu'on est sur la même chaîne. Ouais. Il a été aussi directeur de rédaction à l'Obs, au Parisien. Il a une légitimité pour apporter un regard sur les sujets d'actualité en général. Alors, c'est vrai que parfois, sur les chaînes notamment qui font du débat ou du clash, tout le monde est un peu éditorialiste et l'édito aussi, à outrance, parfois peut aller au détriment du vrai travail journalistique, c'est-à-dire du reportage. Par exemple, moi, j'ai fait beaucoup de reportages. Ouais. Alors là, aujourd'hui, je me trouve de l'autre côté. Mais c'est pour ça que j'ai accepté chez Public Sénat parce que je trouvais qu'il y avait un apaisement qui permettait justement d'avoir, peut-être, de délivrer un édito plus écouté, car je ne dis pas... événement, mais en fait, dans toute une émission, quand vous avez un débat avec des experts, et qu'à un moment donné, il y a un moment pour l'édito politique, moi, je trouve que c'est intéressant, ça lui donne du corps, plutôt que d'avoir plein d'éditorialistes politiques qui lèvent la main pour faire un débat, je trouve que c'est pas pareil.
Ouais. Et tiens, on va mettre à profit votre nouveau rôle d'éditorialiste en vous demandant votre avis sur une infomédia qui est sortie la semaine dernière, le Conseil d'État qui oblige l'ARCOM à durcir le contrôle éditorial des chaînes de télévision. Mais non.
Je vais faire de la politique, là.
Vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. CNews, qui oblige donc à veiller au pluralisme sur son antenne, c'est une bonne ou une mauvaise décision? Selon vous ?
Je fais une réponse de Normand. C'est jamais bon signe quand on veut interdire à un média de s'exprimer, mais en même temps, moi, je suis un légaliste. Et quand on commence à s'attaquer au Conseil d'État, comme quand on commence à s'attaquer au Conseil constitutionnel lorsqu'il y a une loi, par exemple la loi immigration, alors qu'on a voulu s'attaquer au Conseil constitutionnel avant même qu'il prononce qu'il donne son arrêt, qu'il prononce sa décision, ça pose un vrai problème institutionnel. Et là, sur le Conseil d'État, sur l'ARCOM, à la limite, on peut avoir chacun donne son avis, c'est une instance administrative, mais sur le Conseil administratif, c'est une juridiction, c'est la plus haute juridiction administrative en France. Donc ce sont des gens sérieux, donc qui ont sûrement des éléments. Donc moi je me base sur le Conseil d'État. Voilà, après que le Conseil d'État réfléchisse, je sais pas son avis.
On demande pas ça à Quotidien, d'où vous venez d'ailleurs, et on peut comparer CNews et Quotidien, alors sur deux branches différentes, mais enfin c'est bien que cohabitent à la fois CNews et Quotidien, non, vous trouvez pas?
Ça, bah, en fait, je pense que le problème, c'est que Quotidien n'a jamais été condamné ou.
Non, mais Quotidien refuse de recevoir, par exemple, des membres du Rassemblement National.
Je pense que là, on part sur des médias qui accueillent des gens qui ont été condamnés par la justice. Et qui ont comme parfois éditorialistes ouais. ou des journalistes qui ont été ou des médias qui ont été condamnés par la justice. Valeurs Actuelles, il y a pas longtemps, ils ont été condamnés pour avoir dessiné Daniel Obono député en esclave. Donc je pense que c'est parce qu'il y a eu peut-être ces dépassements, ces franchissements de frontières qui pouvaient être considérés comme la ligne rouge, que peut-être le Conseil d'État dit qu'est-ce qu'on fait. Alors est-ce que c'est la bonne manière? Je ne sais pas. Moi, à mon avis, c'est, voilà. Mais mettre tous les médias en disant toutes les opinions ne se valent pas. Voilà. Ouais, quand on franchit la frontière de la loi, c'est pas pareil.
Et alors, on vous a découvert dans Quotidien. Qu'est-ce que vous y avez appris là-bas?
Tout.
Allez, c'est le moment de leur rendre hommage.
Si ils m'en regardent, tout. Non, mais alors, j'ai vraiment, clairement, c'était mes plus belles années journalistiques. Il y a eu le Parisien. Le Parisien, c'est le commencement où j'ai appris le reportage, le fait divers, mettre le pied dans la porte, comme on dit. Ouais. Vraiment, se constituer un carnet d'adresses. Oui, ça c'était important, mais après, c'était mes plus belles années. J'ai un peu d'émotion en parlant parce que avec Yann Barthès et Laurent Bon, les deux producteurs, en fait, j'ai appris le regard, d'éviter et de ne pas se contenter de l'évidence. Voilà, ça c'était important. Okay. Et ça a été tout le long de ces années, ça a été vraiment notre base de travail. Et c'est toujours le regard différent, le contre-pied, apprendre à voir ce qu'il y a derrière la caméra,
c'est
l'image.
Leur concept,
voilà, le champ contre champ, oui, mais c'est une logique, c'est l'une des logiques les plus pures du journaliste. Et c'est ça que j'ai aimé. Voilà, après, certains n'aiment pas, moi je dis pas ça, mais en tout cas, quand on est journaliste et qu'on est baigné dans cette idée-là, quand on vient avec un sujet, la première des choses, on te dit, mais t'es sûr que. Pourquoi un tel a prononcé cette phrase? Ah, pourquoi il l'a fait à ce moment-là? Ce genre de questions. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qui lui a dit de le dire? Quel est son plan derrière? C'est tout ça qu'on a appris. Voilà, et puis plutôt dans une bonne ambiance, moi je me suis quand même bien marré, dans une émission qui est belle, qui est esthétique, on peut rire, parce que moi je suis quand même plutôt dans l'esprit, état d'esprit un peu humeur, un peu vanne, là, j'ai pu quand même m'épanouir. C'est quand même une bande de potes. Enfin, moi, j'ai des amis là-bas, je les revois et c'est cool.
Donc, on comprend, la bande va vous manquer. Et qu'est-ce qui va moins vous manquer? Le rythme, peut-être?
Oui, déjà, le rythme, il est intense. On ne peut pas tricher. Quand on commence un peu, je commençais un peu, peut-être un peu... Je ne sais pas si je dis à fatiguer, pas fatigué, mais je voulais penser à d'autres choses, faire d'autres projets. Et comme c'est du 5-5.
Jours sur 7.
Voilà, et encore, moi je tournais le week-end souvent. Les meetings, ils ont lieu le week-end, les manifestations ont lieu le week-end, donc il y avait ça aussi. J'ai une petite fille aussi, il y avait toutes ces questions-là, donc ça peut être, ça va...
Ça a joué dans la décision.
Oui, bien sûr. Voilà. Non, après le reste, tout le reste me manque, c'est le rythme. Et puis faire autre chose, à un moment, il faut sortir de ça. J'ai 41 ans, courir avec le micro rouge après des députés et des ministres, à un moment, ça avait ses limites aussi, voilà.
Et alors justement, vous avez fait autre chose, l'arabe dans le poste, c'est le nom de votre documentaire produit par Bandmi, diffusé à l'automne. Vous reveniez sur la représentation des personnes d'origine maghrébine à la télé. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'être parfois l'arabe de service à la télé, pour reprendre un peu l'expression triviale?
Oui, non, mais en plus, c'est une question. C'est pour ça aussi que j'ai fait aussi ce documentaire en se posant ces questions. Mais c'est une question paradoxale parce que justement, d'un côté, moi, je voulais montrer l'absence de représentativité des personnes d'origine maghrébine, des Français d'origine maghrébine à la télévision, et en même temps, quand on est représenté, on va endosser un rôle d'arabe de service. Et c'était ça aussi que je voulais montrer, c'est qu'on est toujours l'arabe de service de quelqu'un. Donc à un moment donné, tant pis.
Vous l'avez été dans l'exercice de vos fonctions à quotidien?
Sur
le terrain.
Malgré moi, je le suis toujours. Je vous donne un exemple. Des deux côtés, soit entre guillemets pour la communauté maghrébine, vous êtes trop entre guillemets intégré, vous êtes un peu l'arabe de service parce que vous êtes celui qui fait la caution et qui se trahit sa cause. Et à l'inverse, lorsque vous faites un sujet, par exemple, en banlieue, ou un sujet, je vais en Algérie, ou je me fais un sujet sur le couscous ou le kebab, là aussi, on va dire que je fais l'arbre de service parce que je mets trop en avant mon identité. Donc, on est l'arbre de service parce que voilà, c'est particulier. Ce qu'on raconte dans le documentaire, en fait, l'image du maghrébin en France, elle est sinusoïdale. On passe dans les années 60 du travailleur besogneux, c'était nos grands-parents, nos parents, à celui qui devient responsable du chômage. Un million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés. Puis après arrive le rail, 98, champion du monde, Zizou, et puis le 11 septembre. Et voilà, et puis là, depuis, on a du mal un peu à sortir de cette image de l'arabe, le barbu, terroriste, méchant et criminel. Ouais, et donc c'est ça aussi qu'on traîne. Et ce documentaire voulait aussi montrer que le spectre exclusivement identitaire, religieux, délinquant, que l'on voit dans beaucoup de chaînes d'infos continues, vous m'avez compris, ce n'est pas que ça, le maghrébin, et c'est avant tout autre chose. Quand je dis avant tout, vraiment avant tout, la grande majorité. Ouais.
Et alors, je voulais y revenir, parce que vous avez couvert le procès des attentats du 13 novembre. Vous avez d'ailleurs sorti un très beau livre, Dossier V13, avec Valentin Pasquier, qui est dessinateur judiciaire, livre qui a reçu le prix étudiant du livre politique à l'Assemblée nationale. Donc, bravo. Comment on ressort d'un procès comme celui-là? Parce que vous avez dû voir des images terribles.
Terribles. Des images terribles. On a reçu, entendu, je dirais pour nous c'est un moindre mal, on n'était que les témoins de cette horreur, mais on a entendu de longs témoignages, 6 semaines de témoignages de parties civiles qui venaient raconter comment elles avaient perdu un enfant, un époux, une conjointe, ou comment ces personnes ont assisté à la mort, ou comment elles sont blessées aujourd'hui. Donc ça, c'était quand même difficile. Donc il y a eu évidemment des pleurs, il y a eu des vidéos, il y a eu des audios, il y a eu des photos. On se retrouver tous ensemble avec les journalistes, dont Esther, la journaliste du Figaro.
Esther Paolini.
Exactement. On avait besoin de ce petit verre.
Le soir.
De décompression, oui. Dans la brasserie qui était en face et qui était un lieu un peu particulier parce que les parties civiles côtoyaient les avocats des accusés dans un mélange avec des journalistes un peu au milieu, mais on oubliait et ça se passait bien avec l'idée qu'en fait c'est à l'intérieur du palais que se rendait la justice et nulle part ailleurs. Donc oui, évidemment, c'était particulier, 10 mois quand même.
Et c'est très long, il y a des centaines de témoignages.
Ouais. Centaines de témoignages, mais un procès, comme je le dis dans le livre, qui a, je dirais, accouché, entre guillemets, d'une vérité judiciaire forte. On a pris en compte les versions des uns et des autres, on a rendu la justice pour moi, on n'a pas été arbitraire et qui est quand même eu unanimement plutôt une reconnaissance du travail de la Cour spéciale d'assises. Ouais.
Et alors ce procès, est-ce qu'il vous a changé, soit dans votre manière de faire votre métier ou plus personnellement?
Oui, quand même, franchement. Dis-moi, ça m'a changé. Et puis,
à quel niveau?
Personnellement, déjà sur l'approche qu'on peut avoir des gens quand on veut faire un témoignage, quand on veut s'intéresser à un sujet, on ne peut pas s'y intéresser comme ça. On l'a tous fait. Je vous parle à vous, on est dans une rédaction. Parfois, on passe d'un sujet à l'autre. Et au début, c'est pour ça qu'on n'a pas été préparé quand on est arrivé au procès du 13 novembre. On s'est dit, c'est un autre procès. Non, en fait, on s'est rendu compte dès le premier jour. En fait, ça va pas être comme un autre procès.
C'est un procès à part.
Oui, et moi, en plus, je venais d'être papa. Enfin, ma petite, elle avait 1 an et demi, 2 ans. Et donc, quand on parlait d'enfant, ça me remuait. Puis parfois, on avait le masque en plus, parfois. Donc, ça montait en chaleur. Moi, j'ai pleuré. Voilà, tout ça se mélange. Et après, nous, je dis... Il y avait des psys qui étaient mis à disposition, même pour les journalistes, mais personne n'osait y aller parce qu'on se disait de manière pudique, c'est pas pour nous, c'est pour les victimes, c'est pour les parents et les familles qui ont vécu quelque chose. Donc oui, moi j'en suis sorti bouleversé, touché. Et puis en plus, parce que ça se passait dans nos quartiers, moi ça se passait pas très loin de chez moi, j'ai habité à Charonne, je bois des coups au Carillon régulièrement, donc oui, c'était nous, donc forcément.
Asdine, un tout autre sujet. Vendredi, nous recevions la chroniqueuse Marie Traistéphani, qui officie dans Bel et Bien sur France 2 le samedi matin. Elle avait une question à vous poser, donc je vous propose de la regarder, puis évidemment d'y répondre ensuite.
Bien sûr.
Que tu vas bien. On s'était croisés, je me souviens, dans le sud et tu jouais à la pétanque. Donc déjà, première question, où en es-tu de ton jeu? Est-ce que tu as musclé ton jeu? Et surtout, c'est super ce nouveau départ. Est-ce que ça ne va pas te manquer les formats longs? Notamment, je pense à l'Arabe du Poste qui était génial. Est-ce que tu vas développer d'autres projets dans ce sens?
Ah ouais.
Bah, très bonne question, voilà, ça.
Alors, il y a deux questions. Déjà, la pétanque, ça va mieux
le pétanque, mais... Moi, j'ai une pratique de la pétanque bizarre, c'est que je suis meilleur avec un verre de rosé.
Ah, d'accord.
Un verre.
Il faut un verre de rosé pour se chauffer.
Voilà, exactement. Et là, j'ai l'impression d'avoir le geste plus souple. Oui, la pétanque. Oui, mais comme tout le monde, je joue bien par intermittence. Je pense que c'est le sport le plus universel. Maintenant, pour le deuxième.
Les sujets longs, oui.
Oui, bien sûr.
Vous les abandonnez pas ?
Non, mais justement, c'est pour ça aussi que j'avais quitté Quotidien. Mm. C'était dans l'esprit de me plonger dans d'autres sujets longs. Par définition, ça prend plus de temps. Il faut les développer. Il faut les écrire. Il faut les tourner. Donc oui, il y en a en cours. Bien sûr, donc non, j'ai pas abandonné, au contraire. Si je ne pouvais faire que ça, je ne ferais que ça.
Bon.
Voilà, parce que c'est vraiment, journalistiquement, humainement, c'est difficile, hein, parce que vous prenez un sujet, vous le gardez 10 mois, 1 an, hein, donc, voire plus. Donc parfois, on a envie de sortir de ce sujet.
Ouais.
Mais oui, bien sûr, je continue.
Azdine, on vous garde quelques instants encore pour notre dernière rubrique au suivant. Nous recevrons Valérie Benahim, qui est une chroniqueuse de Touche pas à mon poste, qui sort un livre sur ces femmes amoureuses de tueurs en série. Ça va sûrement vous intéresser. Bon. D'abord, Azdine, est-ce que vous regardez TPMP ?
Oui, alors...
Parce que Salia Braclia, d'ailleurs, notre ancienne consoeur de Quotidien, nous disait qu'elle regardait pour prendre le pouls de la température, la société d'aujourd'hui.
Non, moi, pendant longtemps, ça me faisait marrer beaucoup. Après, moi, comme tous les jours, j'étais sur Quotidien, non, je ne regardais pas. Voilà, et je suis sur Twitter, je regarde moins la télé, donc j'ai les extraits et tout.
Ouais.
Et des choses qui me font marrer encore. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs d'extrême droite, voire d'ultra-droite. Donc c'est
surtout
un peu.
Le week-end, désormais, il est là le week-end.
Donc c'est un petit peu ma limite, mais j'ai rien contre TPMP. J'ai travaillé avec Gilles Verdez à l'époque au Parisien.
Ouais.
Voilà, voilà. Bon, après, vous avez compris, c'est moins mon.
C'est moins votre tasse de thé.
C'est moins ma tasse de thé, mais voilà.
Chacun les goûts et les couleurs. À vous de poser une question à Valérie Benahim. C'est à vous, Azdine.
Alors justement, sur ce livre qui a l'air très intéressant, moi j'ai une question. Est-ce qu'à l'inverse, les femmes qui sont détenues, les femmes délinquantes, criminelles, reçoivent des déclarations d'amour et pourquoi pas des demandes en mariage d'hommes ou pas ?
Merci.
Merci à vous.
Azdine Ahmed Chaou, je rappelle qu'on vous retrouve désormais sur la chaîne Public Sénat le mardi dans Sens Public pour suivre tous vos éditos 2 fois par émission. Le lundi, c'est Beurre FM.
Oui.
Et puis le livre.
Et puis je suis sur Leak, c'est un média créé par Rachid Arab, un média digital sur la pop méditerranée, cette culture qui transcende, qui traverse la Méditerranée, qu'on a ici, là-bas, représentée par DJ Snake, par exemple.
Ah, bah oui.
Voilà, c'est plus de culture. Voilà, je fais des petites interviews avec des artistes, c'est cool aussi.
Ouais, bah, très bien, on vous suivra. Merci Mathilde.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable ! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh !
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.